sur les flics, je m'énerverai pour rien. J'ai une très bonne tactique, je les fais mordre par mes chiens.
Je les hais, je les hais.
Roger Fringant qui espère que Tom a bien appuyé sur le bouton on.
Oui, parce qu'il y a une histoire, il n'y a pas quelques semaines de ça.
Ouais, où on avait enregistré l'émission dans le vide. Est-ce qu'on est vraiment
à l'antenne?
Alors, on demande aux auditeurs, s'il y a au moins un auditeur qui écoute cette émission, eh bien, qu'il nous téléphone, au moins pour dire qu'on est à l'antenne, parce qu'on est un petit peu embêté avec Tom, on n'est plus sûr de rien.
Mais de toute façon, il suffit de regarder la lumière. Ah ben non, il n'y a pas de lumière rouge.
Bah voilà.
Avant, j'ai dit un carton rouge, ça c'était pratique.
Ouais, mais le carton rouge, ça ne fait pas appuyer sur les boutons davantage.
Sans oublier notre fidèle
Monsieur
Grovitch. Ouais. D'ailleurs, on sait qu'on est à l'antenne grâce à Yann,
oui,
qui nous a expliqué comment ça marchait enfin. Il est bien ce petit Yann. Hein.
Il est bien.
Ça fait des mois qu'on fait des émissions que personne n'écoute.
En fait, je crois que c'est la première émission qui est diffusée depuis le début de l'année.
Ah bah voilà. Non, c'est comme ça.
J'ai bien l'impression d'avoir travaillé pour quelque chose.
Bref, vous écoutez les Green News.
On n'a pas présenté Tom.
Mais si, il s'est présenté lui-même.
Non, il n'a pas de micro, regardez.
Mais si, je suis là, Tom, assisté de mon ami technicien.
Oui, il l'a déjà dit.
Non, mais ils n'étaient pas à l'antenne.
Non, on n'est pas à l'antenne. Maintenant, on est à l'antenne. Donc, voilà. Bonjour, bienvenue chez les Grignoux.
Non, c'est pas petit, c'est n'importe quoi.
Ça fait combien de semaines que vous faites l'émission des Grignoux? Enfin, vous faites la technique des Grignoux.
Je suis effondré.
Je ne sais pas exactement, ça fait 15 ans.
Eh ben, vous êtes toujours pas au point.
Bah ouais.
Ouais, vous écoutez les Grignoux aussi, le mercredi de 20h à 22h, le dimanche aussi en rediffusion. Bah, Roger, il est levé vers 15h, 15h30, c'est ça?
Moi, je ne dis plus rien, je suis dégoûté. C'est votre petit, quand il ne mange pas de la soupe au-dessus de la télé, comment de la console.
Chut, on l'a dit qu'on dirait pas, parce que Patoche ne va pas être content. Là,
quand il ne mange pas de soupe au-dessus de la console, il fait n'importe quoi.
Et aussi, on peut taper les Grignoux sans X, sans S, voilà, pour avoir le blog. Allez, un petit morceau? Oh non, c'est pas le Jerry Bright of the Stalker de la semaine,
si,
quand même. Non! C'est incroyable. Et les gens l'attendent. Allez, c'est parti. Ça se termine, malheureusement.
Après cet excellent morceau de la programmation, hein, Roger, je tiens à remercier. Jean-Loup, pardon. Excusez-moi, c'est Jean-Loup.
Non, vous avez tendance à tirer la couverture vers vous, et ça devient problématique.
En tout cas, je tiens à remercier SOS Ordi 35, à côté du jardin moderne, qui écoute l'émission puisqu'il nous a dit qu'on était à l'antenne.
Et vous changez d'ordinateur, donc bientôt c'est Noël.
Non, ça change pas d'ordinateur. Fait. Il m'a très bien conseillé. Alors je tiens à lui envoyer ce petit message perso. Super pour les couleurs.
Présentation d'émission, c'est
présentation d'émission.
Très bien en général.
Ouais, bah une émission. D'habitude, on a toujours l'habitude de dire une émission bourrée. Ah ah, les Green News sont sous. Non, c'est une métaphore. C'est une émission bourrée encore aujourd'hui, en ce sens qu'elle est. D'habitude, c'est quand même pas des sujets qu'on aborde si facilement que ça. Puisque on veut parler aujourd'hui en compagnie de Latifa Benari. Bonsoir.
Bonsoir.
On va aborder un sujet quand même qui est un petit peu lourd quand même, puisqu'il s'agit de la pédophilie, mais pas donc du coup Latifa Benari, excusez-moi, qui est donc directrice, on va dire présidente de l'association L'Ange Bleu. Fondatrice de l'association L'Ange Bleu. Association qui a pour vocation d'aider les victimes, mais pas seulement.
Oui.
Voilà.
Je suis à l'écoute des victimes depuis des années, mais ce qui fait la particularité qui me démarque des autres actions, c'est l'écoute des pédophiles qui sont pas encore passés à l'acte. C'est-à-dire les abstinents ou les passifs.
Donc, association a un travail de prévention et d'aide aux victimes.
C'est un travail en amont, oui, c'est la vraie et la réelle prévention.
Voilà, bon, on aura tout le temps d'en parler en deuxième partie d'émission. C'est vrai, je sais, Roger, c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur. Vous n'avez pas été enfant de cœur, vous, quand vous
étiez... j'ai été enfant de cœur et j'ai échappé.
Voilà, je sais que vous êtes très sensible au sujet.
Alors, c'est vrai que le curé de l'époque m'avait dit, un jour, tu me remplaceras. En fait, non, vous voyez, je ne l'ai pas remplacé. Sauf que, non, il était correct. Et vous savez quoi? J'avais un des rares curés qui avait, tout le monde le savait dans le bled, mais il avait une femme dans un autre bled et il avait même un enfant. Tout le monde le savait, c'était un excellent curé. Sauf que
hétérosexuel.
Il était hétérosexuel, voilà.
Oui, mais son vœu d'abstinence.
Alors, je préfère qu'il s'assoie sur son vœu d'abstinence que sur moi.
Allez, un petit dix et après on embraye sur la
programmation à Roger. Tiens, un dix extrait de la compilation des trans duquel j'ai eu quand même pas mal de mal à extraire des trucs.
Quelques perles.
Ah ouais. Alors ça, par contre, ça c'est très bien. Thunderbird, interprété par qui? Vous allez me le dire.
The Mysterons.
C'est du rock'n'roll, finalement. C'est peut-être pour ça que je l'ai retrouvé.
Bah oui. Allez, c'est parti. Alors, hop quoi, hop quoi.
On est à l'antenne, là.
Hop, vous êtes à l'antenne parce que
il n'y avait pas une rubrique d'habitude.
Si, mais chronique,
ça vient. Bientôt 28 ans, il n'y avait pas une rubrique, la semaine des grignoux.
Non, mais
enfin, moi, je dis
en
ça.
En fait, c'est l'enregistrement de la nouvelle rubrique,
mais
c'est
votre
le blanc.
Petit, vous l'avez complètement pourri.
Non, mais, allez.
C'est n'importe quoi.
Allez. C'est maintenant devenu une habitude, les grignoux ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle.
C'est ça, en fait, tu vois le truc.
C'est ça, Philou, t'as tout compris. C'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignou.
C'est ça, en fait, tu vois le truc.
Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile.
Attendez, mais attends, tu me laisses parler.
Il est en train de me tirer par la violence.
Oh,
c'est ça,
couille.
C'est ça, en fait, tu vois le truc.
Et oui, c'est ça la rubrique perso.
Rubrique... Rubrique à Roger.
Bah oui.
Parce que Jean-Louis va bientôt avoir la bouche.
Il a rien. De toute façon, Roger, Jean-Louis, pardon, je ne sais pas dans quel monde il vit.
Si, j'ai tout
mais
dans ma table.
Apparemment,
monsieur.
On dirait qu'il ne se passe rien dans le monde à Jean-Louis.
Tout dans ma table. Je sais pas s'il y a des personnes autour de nous qui ont une signature de Fillon, mais je pense qu'elle va prendre de la valeur. Elle
oui,
va prendre
c'est pas impossible,
de valeur, quoi.
Des pins.
Et moi, je suis très content de pouvoir payer de la TVA deux points de plus. Je suis très content d'avoir ma retraite à 65 ans.
Ouais.
Je suis très content qu'on les salariés puissent se faire virer comme ça du jour au lendemain. Ça, c'est une évolution. Ça, c'est
alors,
la France.
Rassurez-vous, il n'y a que 3 millions de gens, mais Murphy Fillon, parce qu'il paraît qu'avec Fillon, les frais dentaires ne seront plus remboursés.
Bah...
Donc, je remercie Fillon. Alors, j'ai entendu un ouvrier boucher, il parlait comme ça. Murphy, François. Alors, si encore, ça avait été un artisan qui aurait dit oui, Murphy Fillon, parce que, il en a marre de payer des charges. Non, c'était un ouvrier boucher. Et Murphy Fillon, c'est pas prêt de te refaire les dents.
J'ai du mal à comprendre. On verra. Et vous verrez que dans un an ou deux, on va dire, François Hollande, finalement, c'était pas si mal que ça.
Mais est-ce que vous croyez en Dieu?
Là, il faut que je dise, ça dépend, là.
Moi, ça dépend. Parfois.
Dans 10-15 ans, je crois.
Par contre, quand je vois qu'une Porsche Carrera S a été explosée à Paris dans la nuit du 18 au 19 novembre parce qu'elle était mal garée, tout warning allumé, je suis très content. En fait, c'était la Porsche d'un putain de connard de joueur de foot qui l'avait mal garée, qui se croyait au-dessus des lois, et ils l'ont plastiqué en imaginant qu'il y avait une bombe dedans. Moi, c'est le genre d'idée qui me ferait un peu croire davantage en Dieu.
Moi, un truc qui m'énerve, vous savez qui est mort, un pays communiste de moins. Ouais, bon, notre communisme primaire commence à reprendre le dessus. Le fameux Fidel Castro qu'on présente comme une espèce de Che Guevara, de héros moderne. Alors que c'était quand même un putain de dictateur qui a tenu une poigne de fer Cuba.
Regardez, il n'y a pas eu beaucoup de dirigeants à aller le voir. Même François n'a pas été. Il a envoyé Ségolène qui avait envie de se taper un petit ponche planteur. Et puis, à part ça, c'est tout.
Ouais, mais non, on en parle plus, comme le héros du peuple.
C'est vrai que de toute façon, regardez, si on compare la situation de Cuba, la situation d'Haïti, par exemple, ou de Saint-Domingue, ou de la Dominique, ou de nombreuses îles indépendantes de la région, ou même de la Jamaïque, où la misère sociale est flagrante. C'est une dictature, ça on peut pas le nier, mais au moins il y a une sécurité sociale, il y a une espèce de cadre qui n'existe pas.
Je suis pas tout à fait d'accord. C'est un malin quand même, le Fidel. Quand il a fallu trouver des bonnes alliances, il a été voir l'URSS. Et qui c'est qui payait tout ça? C'est l'URSS, parce qu'à partir de 91, c'était un petit peu plus dur, les
ça
études.
Un petit peu plus dur. Mais j'ai jamais dit attention, faut relativiser. Vous l'avez dit.
Mais au moins vous l'avez pensé fort.
Et je pense que ça pourrait, intéresser notre invité, Cuba, enfin ça va commencer à le devenir maintenant malheureusement avec l'ouverture, mais c'était les îles indépendantes du sud de la Guadeloupe où les Européens vont passer de bonnes vacances. Tiens, par contre, ce qui pourrait me faire douter de l'existence de Dieu, c'est une chaîne de télévision publique marocaine qui a dû s'excuser après la diffusion d'une pub en faveur de maquillage pour masquer les coups. C'est-à-dire que quand votre chérie vous dérouille la gueule, c'est chiant d'aller faire les courses parce que vous avez la tête un peu, visage abîmé. Eh bien, une firme de maquillage avait pensé à ça, c'est-à-dire toute une espèce de fond de teint, des couleurs spéciales, qui vous permettrait d'aller faire vos courses en n'ayant pas l'impression de ressembler à Quasimodo.
Ah, il y a plus simple, une bonne burqa. Hop, ben ouais. On voit rien là, il n'y a pas ben besoin ouais. de frais de maquillage ou autre. Hein, là.
Sexe, j'allais dire non, sexe un jour, non, sexe pistole un jour, sexe pistole toujours. On peut dire ce que l'on voudra sur les héritiers, mais l'héritier de Malcolm McLaren n'a pas démérité lors d'une cérémonie sur le fleuve, la Tamise, lorsqu'il a brûlé, il a détruit à peu près pour quand même 6 millions d'euros de collecteurs, d'enregistrements pointus, de photos dédicacées, etc. Tout un trésor historique, pourrait-on dire, que les fans, comment dirais-je, seraient tapés dessus pour le récupérer. Et bien, il y a d'ailleurs un fan d'ailleurs qui a essayé de se jeter dans les flammes pour essayer de sauver des trucs. Et donc l'héritier Malcolm McLaren a tout brûlé au nom du fait que, bah ouais, si t'es punk un jour, le punk c'est ça. Et aujourd'hui, la société anglaise, notamment la ville de Londres, était en train de récupérer, vous savez, les 30, 40 ou 50 ans du punk, on s'en fiche, on célèbre ça un peu comme on célébrerait le débarquement de Normandie. Et c'est ce contre quoi, justement, cet héritier a voulu s'insurger à travers son geste courageux quand même, parce qu'il a quand même brûlé pour 6 millions d'euros. Ouais. Alors il en a peut-être d'autres, vous allez me dire. Mais n'empêche que...
C'était quand même un gros coup marketing aussi.
Ouais, mais non, mais il n'avait rien à vendre. Non, je suis désolé là, Jean-Louis, il n'avait rien à vendre. Et je trouve qu'effectivement, eh ben, écoutez, ça avait de la gueule.
Ah, vous sortez les fiches partout, je sais pas comment vous faites. Vous avez quasiment la moitié de la forêt amazonienne en fichier.
Non, j'ai surtout une nouvelle imprimante. Merci SOS Ordi 35.
Donc vous servez...
Vous verriez les couleurs. Non, mais regardez les couleurs.
Ah oui, c'est vrai qu'à la radio...
Regardez les couleurs.
Ah oui, c'est vrai.
Nickel. Bref, comment dirais-je, je peux imprimer les articles que je chope à droite, à gauche. Il y a la primaire de la droite n'a pas fait que des malheureux. Hein, elle n'a pas fait que des malheureux au sein de la profession des dentistes, parce qu'eux, ils vont souffrir. Hein, parce que si c'est plus remboursé, j'aime autant vous dire que va y avoir des Porsches à vendre.
Ça va être remboursé à l'anglaise, du style « Ouh, j'ai mal aux dents. Allô, le dentiste, je peux avoir un rendez-vous ?»
Non.
Pas de problème, en 2027.
François Fillon appelle ça des petits bobos. Vous vouliez réagir, Latifa ? Non, vous vouliez pas. Non, je croyais que vous vouliez réagir. Eh bien, les primaires de la droite ont fait au moins un heureux. La Poste qui va encaisser pas moins de 750 000 euros, parce que c'est la banque qui a emporté le jackpot pour le recomptage des sous de la primaire de la droite.
La banque postale.
La banque postale, comme
et là,
quoi.
Et là, il n'y a pas un pet de fonctionnaires là-dedans.
Ah bah si, il y a encore des fonctionnaires.
Les fameux historiques, là.
Ah, il reste encore de l'historique. En attendant, c'est bon que, bah, quelque part, l'État, tellement critiqué par le héros de la primaire, eh bien, comment gratte encore 750 000 euros sur le dos des gens de droite. Ça me fait bien plaisir. Vous saviez que les chats avaient 7 vies, c'est ce qu'on dit. Eh ben, c'est sans doute ce qu'a également Mokhtar Belmokhtar, ça fait quand même 3 fois, c'est la 3e fois, cette fois-ci c'est la France qui annonce qu'ils l'ont assassiné avec un drone qui l'aurait tué, au cours d'une opération au mois de novembre 2016. Ce qui est assez curieux, c'est que c'est quand même la 3e fois qu'on l'annonce mort, Mokhtar Belmokhtar, d'où je me dis justement, effectivement, est-ce que les djihadistes, eux, comme les chats, ont 7 vies? Je sais pas. Rendez-vous prochain numéro pour la prochaine mort de Mokhtar El Mokhtar.
Ils seraient capables en plus d'avoir cette vie. Bah, ils ressemblent tous avec leur barbe.
On les confond. Allez, qu'on coupe et puis on finira après.
Ouais, tranquille. Tranquille. Je sais que c'était traumatisant, votre période enfant de cœur, mais quand même, là.
Moi, je vais passer un morceau de Sharon Jones parce qu'elle est décédée la semaine dernière, malheureusement.
Ah, vous avez fait un flop.
Bah ouais, mais c'est pas grave.
Oui, mais je vois qui c'est, en plus, elle était pas vieille.
60 ans.
This land is your land. This land is my land. From California, well, to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, I tell you.
for you and me.
Top, claque des doigts. Qu'est-ce que c'est? Il est désagréable, Tom. Enfin bref, Roger, vous avez sûrement quelque chose à nous dire.
Bien oui. Fait pour le nez de Robert Ménard. Robert Ménard, c'est un peu aussi, c'est vrai, ma tête de turc toutes les semaines. Alors ce qui est rigolo avec Robert Ménard, c'est ce que disait, comme on dirait, je rappelais dans les Tontons Flingueurs, cette réplique avec les cons. On sait que c'est des cons parce que ça ose tout. Bah, effectivement, Robert Ménard. A osé détourner l'affiche. Alors, il y a plein de mères, hein, des mères qui ont gueulé parce qu'il y avait une affiche où on voyait deux garçons l'un à côté de l'autre. Ils s'embrassaient même pas, mais c'était une affiche pour rappeler qu'effectivement, coup d'un soir, bonsoir, ou alors pour plus longtemps, eh bien, on doit se protéger. Et cette affiche n'a pas plu à de nombreux mères qui ont pondu des arrêts d'interdiction pour faire enlever l'affiche. Et cette affiche n'a pas plu à Robert Ménard qui l'a purement et simplement détournée. Avec des mentions genre à la place de comment liberté, égalité, fraternité, il a mis liberté, égalité, fidélité. Hein, c'est un peu la manie hein, des gens d'extrême droite de
c'est
modifier.
Pas bête, c'est pas bête.
Et il a détourné la photo et il a récupéré une photo qui avait utilisé la manif pour tous. On voit un couple hétéro qui s'embrasse. Sauf que un internaute a été chercher l'origine de cette photo et à l'origine cette photo a été prise par un photographe qui a pris effectivement un couple, un homme et une femme qui s'embrassent. Sauf que l'homme est gay. Voilà comment Robert Ménard, encore une fois, passe pour un con. Mais c'est pas grave, c'est aussi une habitude.
Rassurez-moi, le photographe, c'était pas David Hamilton?
Non, David Hamilton, sur lequel on reparlera
tout à l'heure,
un peu plus tard. Tiens, François Fillon, toujours. Vous savez quand même que pour la campagne... Alors, c'est vrai qu'on n'est pas doué pour la géographie en France. Et si François Fillon devient président, ça serait bien qu'il sache à quoi ressemble l'Allemagne. Parce que dans son programme pour les primaires, il avait utilisé une carte de l'Europe pour dire, bah voilà, je vais m'occuper de l'Europe, etc., etc. Sauf que, eh ben, la carte qu'il avait prise, c'était une Europe avec une Allemagne divisée encore en deux. Une RDA, une RFA. C'est pas grave, le mur n'est tombé qu'en 2009 et ça prétend sauver la France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Con un jour, con toujours.
Ouais, puis, pareil, la mémoire courte des Français, il a quand même, c'était un des rares premiers ministres qui est resté 5 ans, quand même au gouvernement. Je rappelle que le premier ministre, c'est celui qui gère, qui gouverne, etc. Et en 5 ans, bah, qu'est-ce qu'il a fait, en fait?
Rien.
Bah, rien. Bon, bah, là, maintenant, il est...
Oui, maintenant, il va le faire. Maintenant, il va le faire. Allez, deux dernières nouvelles, parce que l'heure tourne, et on a quand même un sujet copieux ce soir. Vous savez qu'en Chine, en ce moment, se tient un espèce de gros salon informatique où on utilise plein de trucs, etc., etc. Et les Chinois présentent leurs robots. Pas tout à fait encore à la pointe de la technique, parce que vous savez quand même que les robots, ça nous renvoie un petit peu à monsieur Isaac Asimov. Isaac Asimov, qui était un auteur de science-fiction, qui a écrit des ouvrages sur les robots.
Et qui a inventé le mot robot, si je dis pas de bêtises.
Ouais, et qui a...
Travail, non,
enfin,
en russe.
Le mot robot, non, je crois que le mot robot vient du tchèque, en fait.
C'est-à-dire travail, non,
ouais,
c'est pas ça.
Il a réutilisé ce mot-là, mais je crois que c'est un terme tchèque à l'origine. Et c'est lui qui a établi les règles de la robotique, à savoir la règle numéro 1, jamais un robot n'agressera un homme. Et alors que les robots ne sont pas encore tout à fait déjà au point, ça y est, c'est fait. Un robot qui ressemblait à R2-D2, mais en fait dont le surnom était Fatty, qui était censé être un robot éducateur de gamins, est devenu totalement hors de contrôle, a traversé tous les stands en pétant tout sur son passage, a fracturé une vitrine et s'est vautré contre un humain qu'il a fallu extraire.
Et dire que ces gens-là envoient des hommes dans l'espace.
Alors ouais, mais est-ce qu'ils vont les ramener? En tout cas, je sais pas si les Chinois ramènent des hommes dans l'espace, mais en tout cas, ils sauront qui ils enverront. Ils ont mis au point un algorithme qu'ils ont essayé durant le salon, d'ailleurs, tout le monde était content d'être fiché, c'est-à-dire un algorithme qui repère les sales gueules. Avec un certain calcul, eh bien, si vous présentez certaines caractéristiques morphologiques communes à tous les visages des criminels, en l'occurrence, une courbure de lèvres supérieure, une différente des autres, une distance entre les coins intérieurs des yeux et l'angle constitué par le nez et les coins extérieurs de la bouche légèrement retroussés, vous êtes un maudit délinquant, en tout cas, supposé tel.
Attendez, Roger, il n'y a qu'à vous regarder tout de suite. Claque, bah, vous
c'est
flash,
clair,
avec
c'est
votre,
clair,
votre nouveau
c'est
look.
Clair. Et c'est pour ça que cet article se conclut en disant « On ose imaginer ce que pourrait donner une mise en application d'un tel algorithme dans un monde bardé de caméras de surveillance. » Il suffit de péter l'algorithme, vous voyez, relier les caméras de surveillance à un ordinateur, péter l'algorithme dedans, et puis pouf, je me fais arrêter toutes les 5 minutes.
Ouais, puis il y a une question aussi, vous savez, pour les manifs, oui, on était 30 000, on était 1 million, il paraît qu'il y a un procédé assez simple qui a été utilisé, je crois, pour quand Obama avait au pouvoir, en fait, il suffit, comme tout le monde, où 99% des gens ont un portable, de regarder le nombre de connexions, en fait, qui sont passées à telle borne, à tel endroit, et là, on saurait, effectivement,
ouais, mais
combien...
Ça n'intéresse ni les organisateurs, ni la police.
Oui, mais ça coûterait moins cher que de faire la police qui est en train de pointer. Alors, il les compte comment, en fait? Par rangée, par un par
non,
un
là, les policiers divisent toujours par 10 ou par 50.
Et les syndicats
multiplient par 5 ou
voilà,
par 10.
Ouais,
donc on saura jamais.
C'est pas comme ça. C'est en fait, ils prennent la taille de la file. Et en fait, effectivement, ceux qui font la manif ont leur, ils vont dire, par exemple, une file de 1 km, c'est 100 000 personnes. Les flics vont dire qu'une file de 1 km, c'est 20 personnes. Et après, ils vont calculer comme ça, en fait. C'est juste la longueur de la manif qui va faire ça.
Donc, on saura jamais combien, alors qu'on peut le
en
savoir.
En France, il y a sûrement des pays civilisés où on pourrait le savoir.
Bah, regardez, les États-Unis, eux, ils sont civilisés,
voilà,
au moins.
La preuve, ils ont Trump.
Bah oui. On va commencer à l'envier, Trump.
Alors, justement, Trump, il se pourrait qu'à la suite, vous avez vu, il y a eu le Brexit. Avec le Brexit, il y a les menaces de séparatisme de l'Écosse. Eh bien, avec le Trumpisme, il y a des menaces du séparatisme de la Californie. Eh oui. Il y a, comment dirais-je, aussi bien à Los Angeles, à San Francisco, qu'un mouvement qui se développe, comment dirais-je, très fortement, qu'on appelle le Calexit, désormais, et selon lequel, bah, effectivement, on dit, je ne suis plus américain, je suis californien. Il faut quand même savoir que ce mouvement est en pleine croissance, et la Californie, si elle devait s'extraire
oui, voilà,
des États-Unis, représente la cinquième ou sixième
puissance
mondiale.
Ouais, ça, c'est...
Ouais. Et ça ne fait pas rire du tout le père Trump, même si la route sera longue, comment dirais-je, mais c'est pas impossible qu'un jour, et ben à terme, et ben après l'Écosse, la Californie, allez savoir.
Allez, un petit disque et après on embraye le vif du sujet. Là.
duck to the mother duke behind. Well, I saw them over the globe worldwide. I snigger and giggle at your wicked stagger shape. Weaver, every step that you make. Showing the feathers that I bowed to fake. Ducky flop playing great, I need to race. On a basis, any status to be the better than the square is the one who dares and grabs it. The mother is others, then a great big follower. Snatching, catching, kicking, my whooping, make it hollower. To me, Mrs. Deuce got juice to lose. Watch a duck bring back to something to tune me. Kinda amused, confused, industry back with tech. Figure me, it's you too, hickle, finger whack. Snacks for the bread, and I have to add. Till I come around, close the bag from your mouth, it's enough. Show up with rhythm rhymes, spread spice stuff. E descends with rapper burp and puff. Four digestic stomach filler tracks. Pick all the lenses, dip, get to the max. Feeling lax with a stack book windy. MPs are remedy for foul to empty. Here's the round word about with laxatives. Hyperactive, you girl neglect this. If you buy the tune, what you can do is fax this. To be precision and pink, softness on silk. Definitely, you need to suck on your own mother's milk. Have you seen the ducks and mother goods behind? You've seen the ducks and mother goods behind. You've seen the ducks and mother goods behind. You've seen the ducks and mother goods behind. Original, original, gotta be original. Typical hip to all, not like a popsicle. It's exact holding a stick in the middle. Riddle. What is characteristic for a pioneer? To be stopped, the stairs, I need the fear. Next year, a whole flock flops the ears. Stretching and bending style like it's a lesson. Toy MC, the wax should be pressed. About what you should know what he hit. At the shuffle shuffle with the fetus. The delusion, ready extract, there's a path. Waiting to follow, every mother's back. Cut a boss styles on the leader's wing. Till it consider the food room to do their own thing. And then we'll see. Have you seen the ducks at mother good behind? You've seen the ducks at mother good behind. You've seen the ducks at mother good behind. You've seen the ducks.
Du sensationnel. De l'émotion. Un peu de voyeurisme. Du racolage. Une ambiance malsaine. Des odeurs de vomi. Du sang. Du sexe. De la connerie humaine. Le tout enrobé d'une évidente mauvaise foi. Voici la chronique la plus excitante de Canal Grignou. Les faits divers, sans grande importance, entre nous soit dit.
Pas tout le temps, parce que c'est souvent le sujet, malheureusement, on le retrouve régulièrement dans les faits divers.
C'est pour ça que... Et c'est suite donc à la lecture d'un article dans 20 minutes, justement. Il y a des gens qui lisent ces journaux gratuits, parce que parfois, quand même, donc on peut y trouver quand même, moi, je prends même les deux, c'est vous dire, le même, on en a deux. Du coup, ça peut paraître un peu cinglé, mais bon, parfois, je trouve que... Et justement, ça m'a permis de vous rencontrer, je suis fort aise, justement, d'avoir découvert cet article, dans lequel... votre association Latifa Benari, puisqu'on reçoit Latifa Benari ce soir, bonsoir. Vous êtes fondatrice de l'association L'Ange Bleu et vous étiez citée dans cet article qui parlait de victimes, de pédophiles dans le monde catholique, c'est-à-dire auprès des curés. C'était à propos de Lyon, Monseigneur Barbarin, etc., qu'on soupçonne d'avoir plus ou moins couvert l'affaire, etc., etc. Bref, vous étiez intervenu à ce niveau-là, puis je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, un sujet qu'on n'a pas abordé, un sujet qui n'est pas, très très fun forcément, mais bon, qui mérite aussi qu'on s'y penche, parce que ça ça brise des vies, il y a plein de gens qui sont brisés, aussi bien les victimes qu'aussi les agresseurs, parce que quand les agresseurs se retrouvent aussi en prison, c'est une drôle de vie qu'ils vont mener désormais.
Et les familles,
etc. Donc c'est une succession de désastres, et vous avez décidé de vous plonger là-dedans à bras-le-corps et d'essayer de faire en sorte que les choses évoluent. Alors, première question qui nous vient à l'esprit, c'est pourquoi avez-vous eu envie de vous occuper, de prendre à bras-le-corps un sujet aussi lourd, quoi, un sujet aussi dur.
Alors, c'est une question qui revient souvent. Bah. Et justement, je vais répondre pour que vous compreniez un petit peu la motivation de cette association. Elle n'est pas née comme ça. C'est l'aboutissement d'un combat de plusieurs années sur le terrain. Donc, c'est une rencontre avec des personnes qui sont concernées par une souffrance. Donc, j'ai commencé très, très tôt. Pourquoi ? Alors, la question qui est posée souvent, c'est parce que je suis une ancienne victime de viol et d'abus sexuels de la part de plus proche de mon père, c'est l'employé, le plus fidèle. Donc, exactement comme on imagine, je suis au milieu d'une famille très nombreuse, mais j'étais toute seule parce que l'employé de mon père avait une stratégie un peu machiavélique, parce qu'il a su tisser des liens d'affection et d'amitié avec mon père, avec l'entourage, pour assouvir ses désirs avec la plus vulnérable, parce que moi j'étais très timide, j'étais un peu isolée, et à partir de 5 ans, c'est vrai que il a abusé de moi. Enfin, pourquoi ? Il a commencé déjà par des gestes malsains, donc on n'a pas besoin, vraiment, j'avais pas besoin de comprendre que c'était malsain, c'était équivoque, parce que j'ai senti quelque chose tout de suite, et à partir de là, il m'a regardé avec des yeux menaçants, où j'ai compris vraiment que c'était fini pour moi, la vie d'enfance, parce qu'il m'a dit tout de suite après que si tu parles, j'étais très très petite, si tu parles, ton père me tuera et tu seras responsable de la précarité de ta famille, parce que ta mère sera une mendiante, vous perdez la maison, vous perdez tout, vous vous retrouvez dans la rue. Donc c'est vrai que c'est une responsabilité qui pesait sur moi, j'y ai cru, même petite j'y ai cru, victime, et c'est comme ça qu'il a continué. Il a continué pendant des années, parce qu'il a garanti mon silence avec ça, et malgré donc sa vie de couple et de père, il avait quand même toujours ce désir de d'avoir une relation avec moi qui me terrorisait, et contrairement à d'autres victimes que j'ai connues par la suite, ça c'est l'histoire après, je n'étais pas tétanisée, je me débattais, je refusais cette relation, ce viol. Et à chaque fois, il revenait pour essayer de m'adoucir, de me convaincre. J'avais l'impression à un moment que il aimait ce rapport de force. Mmh. Voilà. Mmh. Je l'ai pas compris tout de suite, je l'ai compris avec le temps.
Ah, justement, cette prise de conscience. Et c'est marrant parce que quand on vous voit, on a l'impression que vous êtes quelqu'un de blindé, de très fort. Et quand vous évoquez cette situation, alors, on sent beaucoup d'émotions quand même. Ça s'est passé il y a des décennies.
Bien sûr, j'ai eu ce dimanche, j'ai eu 65 ans. Donc, vous imaginez un petit peu l'âge que j'avais. J'avais 5 ans et demi, 6 ans quand il a commencé. Il n'a pas arrêté pendant plus de 8 ans, sans que personne s'en aperçoive dans ma famille. Mais on a quand même décelé ma tristesse, ma souffrance, mes pleurs, mon isolement. Et c'est vrai que à chaque fois que je pouvais m'échapper avec mes frères, j'avais 4 frères, et donc je suis devenue un vrai garçon, hein, parce que je partageais les jeux avec mes frères pour échapper. Voilà, échapper, parce que à chaque fois que j'étais au milieu de mes frères, je me sentais protégée parce qu'ils pouvaient pas m'extraire. Ils choisissaient des moments qui pouvaient garantir la solitude, c'est-à-dire la sortie de l'école, voilà, et puis l'absence de mes parents ou de mes frères. Bon, ça serait trop long à raconter, mais c'est quelque chose qui m'a marqué, mais ce qui m'a sauvée pour ne pas être détruite peut-être, hein, je pense que c'est le déménagement. On était au Maroc et puis on a déménagé. J'avais 13 ans, 14 ans quand on a déménagé, on est parti en Algérie. Et pour moi, c'était une délivrance. Autant c'était une tristesse, un désarroi pour mes frères que je voyais triste de quitter un pays où ils sont nés, où ils ont grandi. Ma mère aussi, qui était marocaine, mon père était algérien. Mais moi, j'étais la plus heureuse parce que je me débarrassais de ce monstre.
Pas suivi, du coup.
Oui, voilà, voilà. Il y avait quelques victoires hein, à la fin parce que je sentais que je pouvais me défendre. C'est vrai, je sentais quand même une petite force chez moi. Et j'ai aussi décelé chez lui cette attirance que je ne connaissais pas. Je ne savais pas la nommer, la pédophilie, mais je voyais quand, avec beaucoup de d'analyse, même à l'époque, je voyais qu'il suivait du regard les petites filles. Donc j'ai compris tout de suite qu'il avait cette attirance parce qu'il regardait les filles comme il me. Et j'avais très peur. C'est vrai que j'avais très peur pour les enfants, pour les petites filles. Et comme c'était le collègue, enfin c'était le camarade de d'autres employés qui étaient vraiment très affectueux, donc je faisais, moi très tôt j'ai fait la différence entre les gestes sains, légitimes et malsains.
Et si à l'époque vous aviez parlé en fait, est-ce que vous auriez cru ou...
Alors je reviens à ça parce que je lui ai posé la question plus tard, je l'ai vu
quand j'avais revu après
à 48 ans. Non, mais je l'ai croisé.
D'accord.
Je l'ai croisé avec le regard, il semblait me menacer toujours avec son regard parce que j'avais très peur. Mais la menace était différente après parce que je l'ai croisé dans des événements de famille, de fêtes. Ce que j'ai eu tout de suite comme réflexe et très tôt, c'est de protéger ses enfants parce que c'est vrai que quand on révèle ce genre de situation, les répercussions sur une famille sont très très lourdes. Et j'avais très peur pour ses enfants qui étaient à l'école, et j'avais très peur pour sa femme qui dépendait de lui financièrement. Et tout ça, c'est un peu ce qui ressort de mon caractère. Hein. Ce n'était pas vraiment de la résilience, c'était uniquement de l'humanité vis-à-vis de son entourage. Je me sentais aussi, moi, protégée, puisque j'étais loin, mais j'étais pas tranquille pour d'autres enfants. En même temps, je ne voulais pas non plus révéler ça, de peur que mes frères réagissent ou mon père, parce qu'il y avait cette menace toujours qu'on le tue, et c'était vrai, puisqu'on me l'a dit après. L'Algérie m'a permis d'échapper, mais en même temps, c'est elle qui m'a propulsé sur ce terrain, puisque j'avais à peine 15 ans et demi, 16 ans, quand j'ai rencontré la première victime. J'ai décelé chez elle un comportement qui ressemblait au mien, et j'ai juste testé une...
C'était une fille aussi ou
oui, c'était une fille. C'était une fille qui est venue avec sa maman, et qui était triste, et elle s'isolait, elle ne voulait pas parler, elle était renfermée sur elle-même, recroquevillée. Et sa maman, elle a dit une chose qui m'a interpellée. Je sais pas ce qu'elle a, elle est tout le temps triste comme ça, et à chaque fois que son oncle vient, et à chaque fois qu'il y avait la présence des hommes, elle fuyait. Et ça, ça m'a pas échappé. Je suis allée tout de suite la voir, on était sur le balcon, et j'ai commencé avec des mots. Comment j'ai trouvé les mots, je sais pas, mais en tout cas, c'était probablement des mots dont j'avais besoin quand j'étais petite. Je me suis juste projetée dans mon enfance et j'ai utilisé les mots dont j'avais besoin. Je lui ai dit, il y a certains hommes qui peuvent être méchants sans qu'on le sache, sans que l'entourage le sache, et la victime peut se taire pour une menace ou pour autre chose, pour la honte, parce que je voulais pas non plus l'enfermer dans l'argument que j'avais moi. Et c'est là où elle m'a appris qu'elle était abusée par son frère, son oncle et son père, en même temps. Et personne ne le savait.
Et puis dans un pays avec une culture musulmane très forte,
voilà, tout à fait, les tabous et voilà, tout. Oui. Et c'est vrai qu'elle avait très peur d'en parler. On l'a pas menacée directement, mais elle vivait cette menace culturelle. Elle était un peu plus âgée que j'ai l'âge que j'avais moi. Et j'ai testé, c'est pour ça que j'ai appris un peu le cas par cas. Je lui ai dit, la prochaine fois que quelqu'un te touche, parmi ces trois, tu dis juste, je vais le dire. Et n'aie pas peur de la menace. N'aie pas peur, dis-lui, je vais le dire. Et s'il s'arrête pas, ben, on va trouver autre chose. Il a suffi qu'elle le dise et tout s'est arrêté. S'est arrêté, c'est tout ce qu'elle cherchait. Mmh. Elle l'a dit à personne.
Mais par contre, les agresseurs ont arrêté.
Tout à fait. Ah. Donc elle a changé complètement de comportement. Elle était très heureuse. Elle est revenue avec sa maman et sa mère m'a dit, toi, tu lui as dit quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a changé. Ses notes ont changé. Ça, son comportement. Et en plus, on l'entend chanter. Et moi, j'étais tellement heureuse. C'était vraiment ma victoire. Ma victoire contre ce phénomène. Parce que, à mon âge, j'ai trouvé une faille. J'ai trouvé une solution. Et j'ai trouvé aussi une idée qui a marché. Et on est resté comme ça, discrète, sur, parce qu'elle m'a supplié de ne pas le dire. J'ai gardé ce secret. Et puis, quelques temps après, c'est une de ses cousines qui est venue me voir. Parce que elle lui a révélé, elle lui a dit, voilà, si tu as besoin de parler, il y a telle voisine qui a sa fille, voilà ce qu'elle m'a dit. Eh ben, le bouche à oreille, donc à l'époque, il n'y avait pas Internet, on n'avait pas le téléphone, mais le téléphone arabe marchait très bien. Je me retrouvais, pas le même rythme qu'aujourd'hui, j'avoue, mais je me retrouvais à chaque fois avec une adolescente ou une enfant victime d'abus sexuels dans son entourage.
Mais parallèlement à ça, vous avez fait des études, vous êtes arrivé en Algérie. Et vous êtes orienté vers quoi? Vous avez fait
l'enseignement. Ouais, l'enseignement. Ça n'avait rien à voir avec cette. Il n'y avait pas de spécifique. Alors j'ai fait l'enseignement pendant 3 ans. Et c'est vrai que moi je suis très très sensible aux autres. En dehors de ce phénomène de la maltraitance, je suis très sensible à la misère, à la souffrance. Et mes élèves étaient dans un village où il y avait beaucoup de précarité. Mais c'est vrai que j'essayais toujours de les écouter pour déceler des situations à risque. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai quand même pu sauver plusieurs élèves de la justice. Enfin, je pense qu'on ne pense pas systématiquement à la justice. On ne pensait pas à l'époque, hein, à la justice quand on est concerné par une maltraitance sexuelle, parce qu'on a toujours peur de la vengeance, je dirais... populaire, je sais pas, vindicatif, qui était beaucoup plus grave. Hein. Et j'ai su gérer ça, mais j'ai quitté l'enseignement. Pourquoi? Parce que j'avais envie de me lancer là-dedans. J'avais pas les moyens. Je me faisais engueuler par mon père parce que mon salaire passait là-dedans. Et je me suis dit, il y a trop de tabous, il y a trop de difficultés. J'ai commencé à faire la médiatrice aussi avec beaucoup de difficultés entre l'auteur. Alors, j'ai zappé un épisode. Je n'ai connu entre 16 ans et 20 ans que des victimes. Donc, le bouche à oreille. Et ce qui m'a surpris, c'était la diversité des victimes, la diversité de leur personnalité, la diversité de leur caractère, de leur force ou de leur faiblesse. Mais dès que je sentais à travers le mode opératoire, à travers ce qu'elle me racontait, dès que je sentais qu'il y avait similitude avec mon agresseur, je ne cherchais même pas à comprendre ni à savoir comment il agissait. Je faisais tout de suite le lien avec son comportement. Et longtemps, j'ai pensé que les victimes étaient agressées par le même profil. Et puis, j'ai commencé à découvrir d'autres profils qui étaient complètement différents. C'est-à-dire, il y avait dans leur mode opératoire je dirais de l'amour, je vais choquer, mais il y avait de l'amour, hein, mais je ne comprenais pas.
D'affection, en fait.
Oui, je le sentais, mais je n'osais pas le verbaliser parce que je l'ai pas connu, moi. Je l'ai pas connu. Ce lien et ce contact, avec l'affection, mais quand même délictueux. Et lorsque j'ai eu 20 ans, une jeune adolescente, préadolescente, m'a contactée avec beaucoup de difficultés pour aborder ce sujet. Et elle m'a dit, je suis tout le temps suivie par un violeur, par un agresseur. C'est l'ami de mon frère et je comprends pas, je sais pas comment faire. Et je lui ai dit, bon, comment il se comporte? Et quand elle m'a dit, quand elle m'a raconté un petit peu, m'a relaté le comportement, je me suis dit, c'est pas possible, là, j'arrive pas à le situer, je n'arrive pas à lui attribuer le comportement d'un pervers. Donc je lui ai dit, où est-ce qu'il habite? Elle m'a dit, bah, il habite tel quartier. Je dis, est-ce que tu permets? Elle m'a dit, j'aimerais bien pour qu'il arrête de m'agresser. Donc elle m'a montré sa maison. Et j'ai essayé de le rencontrer. Ça a été très dur parce qu'il avait très peur de moi. C'était un sentiment pour moi nouveau. C'est qu'on ait peur. Moi, c'est moi qui avais peur.
Pouvoir,
oui.
En fait.
Oui. Je retrouvais un pouvoir que j'avais pas, petite. Et puis surtout que moi, je l'assimilais à mon agresseur. Donc je disais, comment un homme qui agresse une petite fille puisse avoir peur de moi.
Et vous n'aviez pas peur?
Non, pas du tout.
Vous n'aviez
non.
plus peur,
non.
en fait.
Non, de lui. Parce que par rapport à ce qu'elle me racontait, j'avais pas peur. C'est-à-dire... Je ne serais pas partie chez d'autres.
Chez
profils.
Un psychopathe, par exemple.
Oui, voilà. C'est voilà.
Ok.
Tout à fait.
Et tout ça, c'est en Algérie, toujours.
Je faisais du profilage sans savoir que j'étais profileuse.
Fileuse, oui.
Voilà.
Et tout ça, c'était en Algérie.
En Algérie.
Il y a un point, un fait divers qui, il y a un an ou deux, justement, une jeune fille s'était fait violer au Maroc, c'était, je crois. Mm-hmm. Et d'après la loi, je sais pas si c'est la loi marocaine ou autre, était dans l'obligation de se marier avec son violeur pour que la famille, l'honneur, etc.
Alors,
vous avez entendu parler de ce fait divers?
J'ai entendu parler de ça. J'ai aussi entendu d'un imam qui a sorti une fatwa pour autoriser les hommes à épouser une fille de 9 ans. C'est pas généralisé.
C'est ce qu'a voulu faire le ministre de la Justice voilà. turque, d'ailleurs, il y a 15 jours. Et il y a eu une grosse manifestation des femmes, malgré l'autorité militaire, etc. Et les femmes ont gagné. Et le ministre de la Justice turque a retiré ce projet de loi. C'est un projet de loi qui est dans ce que vous dites. C'est-à-dire que je vous viole, mon bon Jean-Loup, mais si je me marie avec vous, si j'accepte de vous prendre...
L'honneur est sauf.
L'honneur est sauf, voilà, c'est pas merveilleux.
Alors, l'imam avait sorti une fatwa pour autoriser un homme à se marier avec une fille de 9 ans, parce qu'elle avait les mêmes performances sexuelles qu'une fille de 18 ans ou de 20 ans. Voilà. C'est vrai que le roi s'est impliqué et cet homme a été donc poursuivi en justice. Mmh. Alors, je dis que ce sont des cas isolés.
D'accord,
c'est pas
oui.
la culture marocaine, je précise.
Oui, non, c'est pas ça. Oui,
alors, voilà, il y a des juges qui se basent sur la loi islamique, enfin la charia, et peuvent appliquer des lois qui sont aberrantes.
Sinon,
voilà, exactement, voilà, exactement. Comme... Donc épouser le violeur pour sauver l'honneur, c'est vrai que ça existe, mais c'est vraiment rare et ça existe dans tous les pays arabes.
On va s'écouter un petit Dix puis après on va voir comment justement, là on est encore en Algérie, on va voir après comment vous êtes arrivé ici.
Et que l'ange bleu s'est créé. Allez, c'est parti.
She turns to me and running. in my place, she said.
You don't dare! Something's wrong in your head! You must be screwed!
I try to control myself, to calm down and stay suave, but I was out of breath. You dirty count, you stink like your mother as does, and she's 6 feet underground.
Voilà, tout, voilà,
où toujours est en compagnie de Latifa Benari, fondatrice de l'association L'Ange Bleu, qui nous raconte les raisons, effectivement, pour lesquelles elle s'est engagée dans ce combat. Un combat, je le précise, pour ceux, les malotrus qui prendraient l'antenne sans s'essuyer les pieds, qui rentrent dans les studios, comment dirais-je, alors que l'émission est déjà commencée. Hein, normalement, ça fait déjà une heure que vous auriez dû être à l'antenne. Bref, comment Latifa nous raconte comment, effectivement, très jeune, elle s'est retrouvée à aider plein de monde, autour d'elle. Et là, donc, on est en Algérie. Et vous êtes déjà enseignante à partir de quel âge? 20 ans
19 ans.
19 ans.
C'est mon père qui a choisi.
Et donc, vous êtes devenu enseignant, vous avez enseigné pendant 3 ans. Et après, vous avez quitté l'enseignement pour justement travailler sur ce problème ou alors pour d'autres raisons?
En partie, j'ai travaillé à l'aéroport d'Alger comme hôtesse de tourisme. Et c'est là où j'ai bien compris que ce sujet est très tabou, parce que j'ai commencé très tôt à faire de la médiation. Donc après la rencontre de cet homme qui était supposé et désigné par cette jeune fille comme violeur potentiel, parce qu'il n'a pas violé, mais potentiellement. Voilà, c'est un petit peu ce qu'elle a perçu de son comportement. Lorsque j'ai réussi, au bout de plusieurs semaines, à essayer de l'aborder, j'ai réussi quand même à le rassurer, parce que ça, c'est très important d'établir un lien de confiance pour qu'on puisse parler. Mmh. Parce que sinon, il avait très peur, et pour à juste cause. Et je lui ai dit, moi, je suis pas là pour vous juger, je suis là juste pour comprendre. C'est vrai que la première fois que je rencontre un homme comme ça, j'avais envie quand même de lui remonter les bretelles. Hein? Parce que elle m'a pas dit directement qu'il l'a violée, mais qu'il allait le faire. Donc, je me suis dit, comment faire pour éviter justement qu'il passe à l'acte? C'était ma manière, un peu dans l'incompétence, hein, parce que je savais pas comment aborder le sujet avec un homme qui visiblement était quand même attiré par cet âge. Il a commencé à pleurer. Il m'a dit, votre discours me paraît très humain, donc j'ai envie de vous raconter. Je souffre énormément parce que cette fille a 2 sœurs qui sont très jolies et qui sont plus âgées, mais elle ne m'attire pas. Je suis attirée par elle, par cet âge, parce que je suis sensible à d'autres, mais c'est elle de qui je suis amoureux. Je suis vraiment amoureux. Mmh. J'ai dit, mais pourquoi vous l'agressez? Il m'a dit, je ne l'ai jamais agressé. Je voulais juste lui manifester mon amour. Et là, sous le choc, amour, ça veut dire qu'on peut tomber amoureux d'une enfant. Je ne me suis pas du tout, moi, comparé, parce qu'il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas d'affection, il n'y avait rien, ni de tendresse. Mais par contre, là, je sentais une sincérité dans ses propos et surtout une information qui était capitale pour moi, c'était uniquement la manifestation de l'amour qu'il voulait lui prouver, c'est tout, et qu'il n'avait en aucun cas envie ni de la violer, ni de la toucher, ni d'abuser d'elle. Mais c'était sa manière, cet élan d'amour qui lui faisait peur, donc elle se sauvait. Elle n'a jamais, d'ailleurs, vécu un contact tactile. Hein. C'est que dès qu'il venait vers elle, elle se sauvait. Mmh. Et là, j'ai un peu fait l'analyse, ayant un peu d'expérience avec les victimes. Là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il m'a dit que c'était très important pour lui de pouvoir parler. Donc, exprimer ce qu'il ressentait était important pour lui. Et il m'a dit, est-ce que vous pouvez lui demander des excuses? Est-ce que vous pouvez lui demander de me pardonner? Juste de lui avoir fait peur. C'était pas le but. Et ça, c'était aussi quelque chose de nouveau pour moi. Mm-hmm. C'est que j'allais transmettre à la petite ce que lui ressentait. Et cette erreur, rétablir cette erreur pour elle. Mm-hmm. Elle était tellement contente aussi de savoir qu'il ne voulait pas la violer. Elle était tellement contente d'entendre les excuses et le pardon. Et à partir de là, j'ai compris que pour une victime, c'est très important. Parce que je l'ai compris avec les autres qui n'avaient pas du tout cette occasion ouais. d'entendre la reconnaissance. Celle-là, elle était métamorphosée par cette reconnaissance, hein, même s'il n'y avait pas d'abus, mais en tout cas elle a su qu'il ne représentait pas de danger et qu'il n'avait pas l'intention de la violer. Mmh. Et ce qui l'a touchée plus que tout, elle me l'a dit plusieurs fois, c'est demande d'excuses qu'elle a senti sincère. Et après, il m'a contacté plusieurs fois pour me dire que ça lui avait fait tellement de bien qu'il a commencé à réfléchir sur son orientation, à se c'était très dur parce que lui apparemment il était attiré par cet âge-là, mais il a compris que c'était difficile, que c'était impossible, que c'était d'ailleurs irréalisable. J'ai constaté que cet échange qu'on a eu lui a fait beaucoup de bien. Donc la suite, c'est ça, c'est qu'à chaque fois que je pouvais aborder quelqu'un, le rencontrer, je faisais un peu Columbo parce que c'était très dur, c'était aussi dur que la première fois, et à chaque fois que je rencontrais des vrais auteurs, c'était tellement important pour eux d'avoir une écoute, parce que la majorité dérapait ou recommençait sans savoir pourquoi. Et surtout, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est pourquoi cette inclination envers les enfants. Pourquoi ce désir? Alors, vous avez certains, par défaut, une pulsion, comme ça, une excitation. Dans la nuit, ils se lèvent et ils s'orientent vers le lit de la petite nièce ou la petite cousine ou la petite voisine qui est venue voir passer la nuit. Mais que c'était pas pour eux un bonheur ou une joie d'avoir fait ça. Et toujours pareil, le fait de parler, d'exprimer ce qu'ils ressentent. Alors certains sont attirés par les enfants et d'autres non, par défaut. Donc il faut le savoir, il n'y a pas que les pédophiles. Les pédophiles, ça désigne des personnes qui sont attirées par des enfants d'une façon figée, fixée. Et non pas juste ponctuel.
D'accord.
Voilà.
On s'imagine toujours, on a une vision du pédophile calculateur, froid, prédateur. Il y a aussi des pédophiles malheureux.
C'est pour ça que j'ai découvert justement cette population à travers les victimes. J'ai essayé aussi de nombreuses fois à rencontrer les familles, parce que certaines victimes avaient besoin de l'encadrement, l'aide, le soutien, l'écoute de la famille, et je réussissais pas. Donc je me substituais un petit peu à ces familles, à ces mamans. J'ai appris à gérer les situations difficiles et délicates aussi au cas par cas. Et c'est vrai, je vais arriver donc à mon départ de l'Algérie vers la France, c'est que lorsque je rencontrais ces victimes, c'était toujours la même chose. Je ne veux pas de justice, je veux juste comprendre pourquoi il m'a fait ça. Et d'autres avaient très peur, c'était la peur. Mais ce qui était un dénominateur commun des auteurs, c'est que si j'avais pu trouver de l'aide ou une écoute comme la vôtre, je ne serais jamais passée à l'acte. Donc pendant des années, entendre ça, avant de venir en France, c'était pour moi évident que ce sont des personnes qui avaient besoin d'aide avant leur premier passage à l'acte. D'autant plus que la majorité me disait que entre la première sensation d'attirance envers les enfants et le premier passage à l'acte, il y avait 10 ans, 20 ans.
Voilà. Donc du coup, ce que vous reprochez en fait à la situation actuelle, c'est que on n'a qu'une approche pénale du problème, c'est-à-dire que pouf, on est repéré comme pédophile ou suspecté de pédophilie, vous allez me réexpliquer de quoi il s'agit, etc. Est-ce qu'on peut être condamné, etc. Enfin, en tout cas, mais il n'y a rien en amont qui est fait justement pour éviter.
Alors le passage. Moi j'étais en Algérie, donc pour moi c'était évident que c'était lié à la culture, voilà. Hein, à la religion. Pour moi, c'était sûr que ailleurs, dans l'Occident, c'était mieux et qu'on avait une approche différente. Donc moi, quand j'ai décidé de quitter l'Algérie, je devais partir aux États-Unis parce que j'étais vraiment très américain dans ma tête. Mon frère était professeur d'anglais et j'ai eu une relation affective avec une professeure qui était américaine qui m'a inculqué cet amour et j'ai fait tout mon tout. J'avais envie d'apprendre l'anglais, j'ai trouvé une place à Philadelphia et j'ai tout préparé pour partir. Et là, j'ai croisé mon mari. J'ai croisé mon mari et c'est l'amour qui a dominé. C'est vrai que c'était un coup de foudre. Il avait un passé, c'est-à-dire son passé marié avec des enfants. Ça ne m'a pas empêché. C'est ce qu'on peut dire. L'amour rend aveugle. Il m'a dit que c'était trop loin, les États-Unis. J'étais quand même déterminée à quitter l'Algérie pour ce problème tabou et tout. Je me suis dit, je vais peut-être aider mieux les victimes dans un pays qui est ouvert pour faire quelque chose. Donc, pas les États-Unis, certes, mais il m'a dit, va en France. Va en France, c'est plus près pour moi et je peux venir avec toi.
D'accord.
Donc, je suis venue et on a fondé un foyer et j'ai continué mon combat. Mais grâce à lui, et je profite de cette antenne pour le remercier, parce que si j'avais travaillé pour gagner ma vie, je ne me serais pas consacrée autant à cette cause. Et grâce à lui, j'étais à l'abri du besoin et j'ai pu consacrer tout mon temps pour, ce combat.
Et l'ange bleu, ça naît dans quel
Alors pas encore. Non, je tant que j'avais.
On va faire une petite pause musicale et puis.
Pendant que nos deux goinfres se comment vous auriez vu comment ils mangeaient le vôtre tout à l'heure. Il y avait des trucs, des chips qui tombaient sur les consoles. Je vous assure.
Allez, un petit disque.
21h15 sur l'antenne de Canal B. On est toujours avec les Grignoux, toujours en compagnie de Latifa Benari et de l'Ange Bleu, mais également de Jean-Loup qui est de retour de sa pause cigarette.
J'étais aux toilettes. Et d'ailleurs, je suis tombé. C'est-à-dire, et
vous êtes encore parti faire caca? Alors, ça c'est marrant. Est-ce que, comment dirais-je, vous avez comme Jean-Loup comme ça des mots qui vous choquent et tout? Parce que là, je vois, il est complètement...
Non, non, avec le travail que je fais, rien ne me choque.
Eh ben voilà. Donc, ça fait plaisir de vous parler justement. Alors là, on arrive en France. Votre, vous étiez marié, futur époux ou, non, vous étiez, vous
non,
êtes parti,
on s'est marié.
Vous étiez marié. Vous arrivez en France.
On a deux
et
enfants.
Et là, vous décidez, puisque vous êtes, comme vous nous l'avez dit, à l'abri du besoin, vous décidez de travailler.
De continuer ce que je faisais.
Sur voilà. Justement oui. les victimes. Alors comment ça se passe en France? Vous avez dû
Effectivement être un petit peu désappointé. Non, c'est la même chose puisqu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas, j'avais pas une structure officielle. Donc le bouche à oreille aussi marchait aussi bien. Seulement la surprise, c'est que les difficultés étaient les mêmes. Les tabous, c'est les les non-dits. Et je me suis retrouvée avec la même situation. Voilà.
Alors justement, est-ce que, comment dire, vous pourriez dire aux deux petits d'arrêter de manger ou de faire du bruit, là, c'est un vrai bordel. Et comment, est-ce que justement, il n'y a pas, à travers tous les exemples que vous donnez, on parle souvent de prédateurs sexuels, on dit toujours à sa petite fille, ne traîne pas dans la rue et tout, il peut y avoir des gens à tourner, mais d'après tous les témoignages, en tout cas il y en a sûrement d'autres dont vous allez nous faire part, mais à travers tous les témoignages dont vous avez fait part jusqu'à présent, on ne voit que le tonton, le voisin, l'ouvrier, ce sont des proches en fait, bien souvent.
Oui, mais on garde les enfants par rapport aux étrangers. Et la majorité des auteurs sont dans le milieu. Ouais, voilà.
Alors est-ce que justement le problème ne vient pas de là, que ce soit en Algérie, au Maroc ou en France, que finalement c'est toujours pareil, ce sont les proches qui bien souvent sont les prédateurs et qui bloquent justement parce que les victimes, c'est le tonton et on peut plus parler, on est étouffé, etc. Est-ce que le problème de base, il vient pas de là en fait, que ce soit justement.
C'est vrai que les tabous, les non-dits, puis la difficulté, surtout un homme. Et structuré différemment qu'une femme. Et je ne sais pas ce qui se passe. Moi, c'est ce que je dis. C'est ce que j'ai découvert aussi lorsque je pose la question depuis quand vous avez ce volcan à l'intérieur. Alors, vous avez ceux qui ont juste un volcan sans l'attirance pédophilique, puis d'autres qui découvrent pour des raisons diverses déjà les jeux sexuels précoces ont le même impact qu'une initiation ou un abus sexuel précoce. Donc il y a des raisons qui sont à l'origine de ce développement. On n'est pas pédophile, on le devient. Je dirais, c'est la même chose que l'homosexualité qu'on a considéré pendant très longtemps comme une maladie.
Mais on n'y peut rien en fait.
Ouais, on n'y peut rien. Non, on le devient pour des raisons diverses, je dirais. Mais sauf que la pédophilie, on la vit avec détresse quand on découvre qu'on est pédophile. Alors, on ne sait pas pourquoi. En fait, moi, j'ai découvert à travers les questions que je pose et ce que j'ai découvert, et ça fait partie, ça constitue mes bases de données. depuis des années, depuis l'Algérie. C'est ce qu'on appelle le touche-pipi, hein, ça peut, alors pas pour tout le monde, mais il y a des risques. Tout ce qui est plaisir précoce, hein, peut générer après, dans la vie d'un garçon, dans son adolescence, ou sa majorité sexuelle, cette déviance. Mais si on reste, enfin cette déviance, ça déclenche quelque chose, mais si on reste silencieux, si on ne sait pas ce que c'est, si on n'a pas les réponses, eh ben on peut s'enfermer dans cette orientation. Mmh. Et puis les dégâts après, on les connaît.
Et est-ce que c'est vrai, on dit souvent que les gens qui commettent des actes de pédophilie ont été eux-mêmes victimes d'actes de pédophilie en enfance?
Qu'est-ce que vous appelez des actes pédophiles? Parce qu'il y a des hétérosexuels qui commettent aussi des actes. Donc moi je dis, la pédophilie désigne une attirance sexuelle envers les enfants, mais ne signifie pas forcément un délit. C'est ce que je dis tout à l'heure. Donc, c'est ceux qui passent à l'acte, ceux qui commettent des infractions, ne sont pas tous des pédophiles. Mais vous avez posé la bonne question, est-ce qu'ils ont été abusés eux-mêmes? C'est ce que j'ai découvert. Abusés ou joués au docteur. Parce que on a tendance à confondre un abus sexuel et un jeu sexuel. Et aujourd'hui, avec Internet, ce que j'ai découvert avec beaucoup de pédophiles, puisque je suis la seule structure à qui un pédophile peut révéler ce qu'il ressent, lorsque je creuse...
En France, vous êtes la seule structure, effectivement...
Dans le monde. Il y a une structure médicalisée, une institution étatique en Allemagne. Mais elle fait pas le même travail que moi. Il n'y a pas de permanence d'écoute. Et puis, souvent, les pédophiles, même ici, il y a le CRIAFS, le centre de ressources qui est dispatché dans toute la France. C'est vrai que ce sont vraiment mes partenaires lorsqu'il y a nécessité d'une prise en charge. Mais, en général, les pédophiles qui font appel à l'Ange Bleu ne se sentent pas malades. Et aussi, il y a une grande catégorie qui ne fait pas confiance aux psy. Mmh. Donc ce qu'il faut, c'est passer par une structure comme la mienne, qui a une méthode alternative pour les orienter ou les aider. On n'a pas besoin, forcément, un psychiatre n'est pas incontournable. J'arrive à la création de l'Ange Bleu. Donc j'avais une expérience de terrain. J'étais dans l'ombre, parce que d'abord, j'avais des enfants. Et je n'avais pas l'intention justement d'échapper à ce rôle maternel qui m'incombait. Et lorsqu'il y a eu cette histoire en 96 qui a défrayé la chronique de Marc Dutroux, c'est là où j'ai découvert ce qu'on écrivait, ce que j'entendais, ce que je regardais ne correspondait pas du tout à ce que j'ai appris sur le terrain. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est moi qui suis en erreur, ou bien c'est eux qui sont en retard? Parce que j'entendais n'importe quoi, beaucoup d'aberrations, beaucoup d'informations erronées, beaucoup de lacunes, mais je me suis dit peut-être que moi, je suis différente, hein, que ce que j'ai appris est c'est une connaissance humaine, hein, j'ai pas ouvert les livres pour apprendre. J'ai été chercher moi-même les informations. Voilà, c'est pour ça que lorsque il y a eu une affaire et il y avait une psychose collective généralisée en France, en Belgique, un peu partout, suite à cette l'affaire Dutroux, Marc Dutroux est devenu un peu l'archétype de tous les pédophiles. Et c'est un psychopathe, c'est un tueur, c'est un criminel, et on l'a assimilé à ceux que j'ai connus. qui sont vulnérables, qui sont même malgré leur statut de délinquant, n'avaient aucun lien avec ou similitude avec cet homme, cet individu. Et c'est là où à l'école de ma fille, il y avait une histoire, je le raconte un petit peu dans mon livre pour expliquer comment est née la Lange Bleue, parce que j'étais très bien moi dans l'ombre, hein. Je m'occupais de ma famille, je m'occupais de mon mari, je m'occupais de mon foyer, mais j'étais militante dans l'ombre, c'est vrai. Ça me confortait un petit peu dans ce que je faisais, parce que j'étais une femme de terrain, j'étais pas une théoricienne. Voilà. Je lisais pas pour agir. Et c'est le psychologue de l'école de ma fille qui a fait appel à moi pour me dire qu'est-ce qu'on doit faire avec cette histoire que vous avez fait émerger. C'est quoi comme histoire? C'est l'information concernant un enseignant qui avait un comportement équivoque. Donc moi, j'avais comme habitude de ne jamais me prononcer avant d'être confrontée à la réalité. Donc j'ai commencé à faire l'enquête, hein. J'ai fait vraiment Colombo pour chercher les témoignages des différentes personnes concernées. Voilà, personne ne voulait parler, personne ne voulait révéler, parce qu'il n'y avait pas de preuves tangibles d'un abus sexuel. Il y avait des dérapages, par exemple une caresse sur la peau à la sortie de la piscine, un bisou furtif comme ça pour un garçon qui ne voulait pas, des attitudes, je dirais pas anodines, mais qui m'ont interpellé lorsque on est arrivé à la piscine. L'histoire d'une institutrice qui m'a dit, je suis allée avec ce camarade à la piscine et il a filmé les enfants. Parce que moi, je voulais savoir pourquoi cette rumeur tournait, était véhiculée, mais discrète. Personne ne pouvait dire les choses avec les mots. Hein. Et moi, donc, j'ai pris le courage par les deux mains. L'institutrice savait que j'étais quand même éclairée sur certaines choses. Elle m'a confié cette information. Et après donc le recueillement de plusieurs témoignages, j'ai eu du mal à les faire donc témoigner par écrit. C'était très dur parce que j'avais besoin des écrits, hein, pour apporter des éléments. À la justice si c'est nécessaire. Après ces informations, j'ai voulu savoir exactement ce qui s'est passé après ce film. Donc elle m'a dit, lorsqu'on a visionné le film, je l'ai forcé à le visionner après le retour de la piscine, elle a été choquée, qu'il a filmé les sexes des enfants avec image à l'arrêt. Donc c'était non seulement immoral, illicite, et puis surtout grave. Elle a réagi rapidement, elle a été voir le directeur. Donc le directeur n'a pas pris les mesures, voilà, c'est un peu comme l'Église, n'a pas pris les mesures qui s'imposaient. Il a juste remonté les bretelles à l'instituteur en lui disant « Mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu as pris les photos ?» Mais il ne recommence pas. Et cette institutrice, cette réponse ne lui suffisait pas. Elle est revenue vers moi et elle m'a dit, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? J'ai dit, mais moi je vais inviter cette maman qui ne savait pas quoi faire avec ce qui lui a révélé son fils, à savoir qu'il lui caressait la peau, il lui disait ta peau est très douce, et puis à un moment je lui ai demandé d'aller plus loin dans les questions, habilement, avec ruse, sans le traumatiser, parce qu'il l'aimait beaucoup. Donc on ne voulait pas justement perturber l'enfant. Je lui ai juste demandé de lui poser la question, est-ce qu'il lui a touché dans les parties intimes? Parce que j'avais pas non plus envie de mettre en péril la carrière d'un instituteur. Surtout qu'à l'époque, on cherchait beaucoup plus les cadavres dans les jardins, comme Marc Dutroux, les viols, le sang. Voilà, des traces de violence. Que là, il y avait rien. Donc c'était très difficile de faire une enquête comme ça, de ce genre, même si je suis pas dans la profession de la police, j'ai fait leur travail. Et elle m'a appelé un jour, je l'ai accompagnée pour faire une main courante, pour justement conduire une main courante vers une enquête si c'est nécessaire. Et là, au retour de la main courante, elle avait quand même une culpabilité, elle avait très peur de se tromper, hein, de faire une erreur par rapport à l'analyse qu'elle a faite des révélations de son fils. Et le soir même, il lui a dit, mais maman, tu sais, de temps en temps, il me gardait pendant la récréation, et il me mettait sur les genoux, et il me caressait le zizi.
Oh, oh.
Voilà. Donc là, il n'y avait aucun doute. J'ai recontacté l'inspecteur de police. C'est pour vous dire que je ne suis pas que dans la complaisance. Là, c'était nécessaire parce que sécurité des enfants était en cause, oui, et engagée. Donc, on a demandé à ce qu'il y ait une enquête. Et donc, l'inspecteur a tout de suite transmis les informations au procureur et l'instituteur a été convoqué. Moi-même, j'ai été convoqué chez l'inspecteur départemental qui m'a dit c'est pas par hasard si vous avez vu cette affaire comme ça, vous avez probablement une expérience parce que on serait jamais rendu compte malgré toutes les rumeurs. Il l'a donc suspendu. Et c'était une première en France. Suspendre un enseignant avant un jugement, c'était une première. Et bien sûr, il s'est pas défendu. Mais moi, honnêtement, je ne voulais pas la mort de cet instituteur. Ce que je voulais juste de l'écarter, mais en même temps l'écarter et aussi l'encadrer différemment. Donc, il y a eu un jugement. Il a eu 9 mois avec sursis et révoqué totalement de l'enseignement. Donc, c'est la mort sociale, c'est l'assassinat social d'un homme qui vivait, livré à lui-même. On n'avait aucun moyen de savoir comment il vivait. Et pour moi, c'est là où j'ai pointé le doigt sur les failles du système. C'était ou noir ou blanc. Dans la mesure où on a donc décelé un délit, où il était condamné pour les gestes qu'il a commis, révoqué. Il n'y a pas pire comme condamnation.
C'est comme un drogué à qui on n'offrirait pas de cure de désintoxication.
Voilà, voilà. Donc moi, ce que j'ai souhaité, ce que je croyais, c'est qu'on allait le recycler, au moins qu'il travaille, pas dans l'enseignement auprès des enfants, en attendant, je ne sais pas moi ce qu'on aurait fait, mais en tout cas ne pas le révoquer et se retrouver totalement
à la rue.
Oui, à la rue. C'est ce que j'ai appris après, par son père.
On va s'écouter un petit disque si on va poursuivre notre conversation, parce que j'ai encore une tonne de questions à vous poser, et leur tourne. Et c'est un morceau de Nathalie alias Billy the Kick sur le dernier album, un morceau un peu troublant qui est très très loin de Mangez-moi, Mangez-moi, Mangez-moi. Je sais pas si c'est du vécu ou pas, mais c'est extrêmement bien exprimé, vous allez
c'est
voir.
C'est en rapport avec le sujet en tout cas.
Oh, complètement, ouais. Alors voilà, on va s'écouter
Mangez-moi.
Ça.
Mangez-moi.
Immonde inceste.
Ne reprends pas ma main pour mets plus ton poison dans ma bouche. C'est moi ta petite fille que tu touches. Oh, j'appelle et je supplie. Et je crie, personne n'entend. Et je hurle, personne n'entend. Quand tu m'allonges sur le lit, que j'ai confiance et que je réussis, tu tiens ma vie, mon innocence, c'est mon enfance contre ta jouissance, papa. Ne reprends pas ma main. Je te la rends. Cette salissure, elle t'appartient. Je te la rends. Et te laisse là dans ta fêlure. Car moi maintenant je m'en vais.
Voilà, donc
un morceau très gai de
Billy the Kick sur le dernier album Immonde Inceste, et je crois que ça prend au trip un petit peu ce morceau.
Alors je vais pas vous casser l'ambiance, mais il est quand même déjà pas loin de 21h40, il nous reste à peine 20 minutes. Et est-ce qu'on sait pourquoi vous avez appelé votre association L'Ange Bleu? Ça on le sait pas toujours.
Alors moi, justement, la naissance de l'Ange Bleu n'est pas venue comme ça, hein, parce que ce que je faisais me suffisait. Mais avec cette histoire de l'école, avec l'inspecteur départemental qui m'a félicité d'avoir protégé les enfants d'une médiatisation, parce que justement à l'époque, on venait avec les micros et tout, avec les enfants, on les traumatisait. D'autant plus que cet instituteur était sur un piédestal aux yeux des enfants, aux yeux des parents. Le maire de ma ville, Monsieur Lannes, que je remercie parce que c'est lui qui m'a encouragé, qui m'a dit vous avez de l'expérience, vous avez du terrain, et comme il n'existe aucune association pour éviter le passage à l'acte, puisque je lui expliquais ce que je voulais moi, c'est que ce que j'ai constaté, c'est le manque flagrant d'une écoute en amont, c'est-à-dire un travail en amont, la vraie prévention. Par contre, ce mot, je l'ai entendu tout le temps dans la bouche des politiques, des associations, de tout le monde, prévention, prévention. Et réellement, elle n'existe pas, dans la mesure où les enfants, on les informe. C'est pas eux qui doivent gérer la prévention des passages à l'acte. Et j'ai eu cette idée, donc depuis très longtemps, qui germait, puisque tous les auteurs que j'avais rencontrés me disaient, si j'avais pu être entendu, si j'avais pu être aidé, je serais jamais passé à l'acte. Donc pour moi, il était évident que si on veut faire quelque chose, il faut créer une structure exutoire que je croyais exister en France. Donc lorsque il y a eu cette histoire de l'école, j'ai demandé à mon frère, dont je vous ai parlé, tu cherches avec moi sur Internet, parce que je ne savais pas du tout utiliser ni Internet, ni même un ordinateur, ni un clavier. Est-ce que tu peux chercher avec moi dans le monde ou en France, il existe une structure qui travaille, qui écoute les pédophiles, parce qu'on a trouvé des dizaines, hein, qui poussaient d'ailleurs dans cette époque comme des champignons pour les victimes. mais rien pour les personnes qui sont en prise avec leurs attirances pédophiliques. Et c'est là où j'ai eu l'idée, donc je l'ai proposé au maire, et il m'a dit, allez, banco, il vaut mieux partager votre expérience avec les institutions que de rester comme ça, isolée, marginalisée, toute seule. Bon, je crée l'association Pourquoi l'Ange Bleu, tout simplement parce que lorsque j'étais sur le terrain, j'avais toujours, ou presque, des satisfactions de résultats. Donc on m'appelait ou en arabe ou en français l'ange, et pour moi, l'ange, c'était l'enfant. Donc j'étais la petite fille qui protégeait les enfants de ce que j'ai vécu. Même en étant adulte, j'étais tout le temps dans la peau d'une petite fille. Et donc l'ange, il lui fallait une couleur. J'ai ma fille, ma deuxième fille, qui connaît très bien ce combat, qui maîtrise le sujet, elle m'a dit, écoute, appelle-le le bleu, parce qu'elle adorait la couleur bleue. Elle aimait les schtroumpfs, son cartable était bleu, son tablier était bleu, la porte bleue, le lit bleu. Donc voilà, je lui ai fait plaisir. C'est tout simplement ça, l'ange, c'est l'enfant, et le bleu, c'est la couleur de ma fille.
Et j'aurais deux, trois petites questions à vous poser. Une question qu'à la rigotte, on parle de pédophilie au niveau des hommes. Est-ce que ça existe, la pédophilie, au niveau des femmes?
Alors, c'est vrai que moi, pendant 30 ans, avant de créer l'association, je n'ai jamais eu connaissance de femmes auteurs. Quelques hommes ou quelques cas m'avait dit, voilà, ma tante a abusé de moi, m'a touché et tout, mais c'était vraiment très rare. Et lorsque je cherchais bien dans l'histoire de la victime ou de l'auteur, femme, je trouvais beaucoup plus de carences sexuelles, c'est-à-dire la séparation avec les hommes et tout, et donc on abuse des enfants par défaut.
Mais pas par vice ou
non,
perversité.
C'est pas vice. C'est pas une orientation figée.
D'accord.
Alors, elles peuvent être délinquantes, c'est-à-dire commettre des délits, mais n'ont pas une attirance étymologiquement pédophile.
Ouais. Voilà. Donc c'est plutôt un phénomène masculin.
C'est exclusivement masculin. Malheureusement, je suis désolée pour vous les hommes, mais on a au moins cet avantage, nous.
Une deuxième question, je vais vous poser. Est-ce que la notion de pédophilie, c'est pas un problème culturel? Imaginez, moi, je suis afghan, je peux me marier avec légalement avec une gamine de 12 ans. Est-ce que je suis pédophile?
Non, pas du tout. On m'a souvent soulevé le problème du prophète, ou on m'a même posé la question sur Johnny Hallyday ou Eddie Barclay, qui aimait toujours les jeunes. Et on n'a pas compris qu'un homme hétérosexuel peut tomber amoureux d'une fille de 12 ans, de 13 ans, sans faire de lui un pédophile. Parce que il s'agit d'une personne qui lui paraît, qui voit comme une petite femme. Donc c'est un sentiment d'amour à l'égard d'une personne et non pas d'un enfant.
Oui, et puis là, dans un cadre officiel en plus. Je veux dire, dans un cadre officiel, il y a un mariage, etc. Ce n'est pas comme dans votre cas, c'est-à-dire l'ouvrier qui profite des moments de solitude pour vous agresser, ou le tonton, etc. Là, il y a véritablement mariage, et il n'y a pas forcément les jeunes hommes. Ah, si, ils peuvent être un peu plus vieux quand même. Les hommes peuvent être beaucoup plus vieux.
Alors, c'est pas un problème de différence d'âge, hein. C'est un problème de fixation. Alors, vous avez aussi une catégorie qui n'est pas très connue. C'est l'hébéphilie et l'éphébophilie. C'est-à-dire, l'hébéphilie, on va arriver à David Hamilton. Donc,
justement, vous voulez en parler ce soir.
Alors, je reviens à la création de l'Ange Bleu. Lorsque j'ai créé l'association L'Ange Bleu, j'ai été moi-même surprise parce que je ne savais pas comment faire pour parce que je crée l'association et je ne savais pas comment faire pour attirer les pédophiles abstinents. Donc Internet m'a sauvée, j'ai appris grâce à mon frère, je le remercie, et aussi grâce à une radio comme vous, c'est Europe 1, Même si c'est pas la même
chose.
Mais c'est Laurent Guimier qui m'a invité parce qu'il a trouvé mon site et il a découvert donc une structure un peu différente, démarquée des autres. Et il m'a dit je veux absolument votre témoignage, votre témoignage sur ma radio, une chronique de 4 minutes. Et il a insisté, donc je suis allée comme ça, spontanément. Donc j'ai répondu à ses questions et à 7h30, il m'a passé 4 minutes ont suffi pour permettre aux premiers pédophiles abstinents de sortir de l'ombre et de venir demander de l'aide. Donc c'est comme ça que j'ai découvert cette population et j'ai aussi découvert les consommateurs d'images qui sont des addicts, c'est un long sujet, comment ils s'enlisent là-dedans, comment ils découvrent et comment ils s'enferment et comment ils continuent. Voilà.
Ça, c'est l'hypocrisie aussi un petit peu là-dedans, parce que d'un côté on dit c'est mal, mais en même temps, il y a quand même des fournisseurs d'accès qui débitent comment au kilomètre. D'ailleurs, il y a des pourcentages qui sont assez effarants. Le contenu à Internet, 60, 70, voire 80% des contenus Internet sont en caractère, à défaut d'être pédophile, au moins pornographique.
Bon, tout à fait.
Minitel, il a fonctionné comment, à votre avis?
Alors, c'est la pornographie sur Internet. C'est vraiment un outil destructeur aussi, parce qu'il est accessible. Et aujourd'hui, ces industries, ces industries pornographiques sont entre les mains de nos enfants, et je peux vous dire que l'impact, ça je le dis, je mesure mes mots à tous les parents et à tout le monde, l'impact de la pornographie chez les enfants a le même problème qu'un abus sexuel précoce. Voilà. Donc ça peut générer...
On impose aux gamins des images
qu'ils n'avaient pas le droit de voir. Oui, et ça peut générer un développement pédophilique. Voilà. J'ai beaucoup de pédophiles qui me disent j'ai commencé à regarder la pornographie classique, légale, à 11 ans, à 9 ans. Et donc après, ils basculent à 13 ans, 14 ans. Il bascule vers la pédopornographie parce qu'il retrouve les images où il se reconnaît, où il se projette dans le plaisir qu'il a eu. Ce n'est pas un pédophile, mais c'est quelqu'un qui commence à se familiariser avec les images qui lui font plaisir, qui voit un enfant comme lui il était. Donc voilà, quand il regardait, il éprouvait du plaisir. Donc il y a des enfants qui n'ont même pas d'éjaculation, mais qui éprouvent du plaisir en regardant la pornographie, à l'insu de la famille. Parce que c'est vrai, s'il n'y avait pas la pornographie, il n'y aurait pas de problème.
Ah bah, si les parents mettaient des codes parentaux aussi, ça éviterait peut-être...
Ça ne marche pas. Bon. Donc moi, je sais que maintenant, l'offre... vraiment précède la demande. Ouais. C'est ce que voilà. Donc il faut arrêter de dire s'il n'y avait pas la demande, il n'y aurait pas l'offre. Non, je suis sûre que les propositions... Et d'ailleurs, on fait bien de parler de ça, puisque en 2011, j'ai porté plainte contre X pour dénoncer des diffuseurs et des producteurs au Palais de justice de Paris, parce que quelqu'un m'a contacté, il a découvert des centaines d'images à caractère pédophile sur un ordinateur dans une mairie, la mairie de Paris, sur un ordinateur, je dis pas que c'est la mairie ou le site.
Non, c'est quelqu'un qui...
Oui, et j'ai porté plainte pour qu'on arrive justement à la source. À ce jour, aucune nouvelle.
Ouais, et ça fait longtemps, parce que votre dossier est...
2011.
Et justement, quand on préparait l'émission, un truc assez surprenant, on l'entend régulièrement dans les faits divers, oui, telle personne a été arrêtée avec 10 000 images pornographiques sur son ordinateur, et vous nous disiez que c'est pas forcément les gens les plus dangereux, en fait.
Oui, déjà, le nombre d'images stockées dans un ordinateur ne signifie rien du tout, parce que ces gens qui sont isolés, qui sont seuls, qui n'ont que ça pour assouvir un désir qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, qui les dérange, qui les rend malheureux et tout, ils stockent pour choisir après. Et les magistrats, les législateurs, se basent sur le nombre pour les condamner. C'est vraiment aberrant. Et d'ailleurs, je profite de cette antenne pour vous dire que leur profil... ne nécessite pas vraiment les sanctions lourdes comme je suis en train de constater malheureusement, parce que les pédophiles consommateurs d'images qui viennent spontanément et volontairement demander de l'aide parce qu'ils prennent conscience de la gravité, ont plus de facilité à se sevrer que ceux qui sont arrêtés et fichés dans un registre de délinquance sexuelle.
Mais quand vous avez écrit L'Ange Bleu, c'était quoi le ressenti? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont dit, mais non, le pédophile, hop, une balle dans la tête et on en parle plus.
Ah, mais
et
continue.
Vous, votre discours, c'est justement...
Alors, je fais la part des choses. Je fais la part des choses. J'accompagne aussi des victimes, des familles de victimes qui continuent à m'appeler. D'ailleurs, j'ai une grande part de mon activité, de mon action qui est axée sur l'aide et le soutien des victimes. Lorsque je juge nécessaire d'accompagner ces gens à la brigade des mineurs pour porter plainte parce que il y a la sécurité des enfants qui est aussi en jeu, je n'hésite pas. Je donne aussi des conseils. Mais parfois, c'est vrai que je demande aux personnes de réfléchir avant d'aller au commissariat parce que souvent c'est peine perdue, hein. C'est pour ça que il faut absolument mesurer le pour et le contre avant d'aller tout de suite vers la plainte parce que c'est quand même très très délicat et très important de savoir si c'est nécessaire ou pas. Je parle aussi aujourd'hui de l'imprescription qui est véhiculée par un mouvement lancé par des personnes que je nommerai pas. Je trouve que c'est une démarche qui est inutile dans la mesure où déjà la loi permet 20 ans après la majorité de porter plainte. C'est largement suffisant parce que 40 ans, 50 ans après, sans preuve tangible et sans aveu, la justice classe l'affaire et c'est une déception pour la victime. Donc c'est le déni de la personne, le déni de la victime. Alors que s'il y avait un dialogue, des groupes de parole et des réunions comme je fais, ça serait beaucoup plus efficace et plus constructif.
C'est ce qu'on voit donc sur un des liens que vous nous avez envoyés. Donc effectivement, vous organisez des tours des groupes de parole au cours duquel des victimes âgées, comment qui ont
des anciennes victimes,
des anciennes victimes rencontrent ou des gens qui sont passés à l'acte ou des gens qui risquent de passer à l'acte, c'est bien ça, et qui discutent
des conservateurs d'images à caractère pédophile ou des abstinents totalement. Qui dialoguent entre eux, qui s'échangent des questions, et puis surtout, ce qui est vraiment paradoxal et semble inédit, c'est une entraide entre les uns et les autres.
Ça, ouais. Et donc du coup, est-ce que maintenant vous êtes toujours toute seule? Comment donc vous êtes fondatrice de cette association, là, L'Ange Bleu, vous continuez à travailler toute seule ou alors est-ce qu'il y a des gens qui vous soutiennent dans votre travail?
Alors dans le travail, je suis toute seule parce que c'est vrai que cette hotline qui est basée sur une expérience de terrain trouve difficilement des relais parce que je manque de moyens pour former des personnes qui peuvent rester longtemps parce que les bénévoles n'ont pas suffisamment de temps pour apprendre tout de moi parce que c'est le cas par cas, c'est le terrain, est une connaissance complètement différente, elle n'est pas basée sur la théorie.
Je pense que les pouvoirs publics ont pleinement conscience de l'utilité de votre œuvre et puis vous êtes aidé financièrement.
Ah oui, par des cartes de vœux chaque année.
D'accord. Donc vous n'avez aucune subvention, jamais, rien.
Non, mais grâce aux médias. C'est vrai que quand on découvre mon action, contrairement à avant, on comprend mon travail et l'axe de mon travail, c'est la prévention du passage à l'acte, même si c'est un peu différent, sous un angle différent. Mais sinon, je n'attends absolument rien de l'État. Parce que le politiquement incorrect ne paye pas. Et je suis désolée, mais j'ai été souvent reçue dans les cabinets ministériels et je sors qu'avec des compliments, des encouragements et rien d'autre. Donc j'attends beaucoup plus des Français que du gouvernement.
Oui, enfin, moi, vous avez une paraffe du peut-être une lettre de refus, certes, mais du futur président de la République. Là,
oui.
Et ça au bon coin. Je pense que vous pourrez financer votre association sans trop de problèmes. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Justement, est-ce qu'on veut parler de... en fait, on parle de la pédophilie, mais c'est, on faut parler des pédophilies. En fait, il n'y a pas un profil type de pédophile, si j'ai bien compris.
Oui.
Il y a plusieurs plusieurs actions, plusieurs niveaux, et je peux regarder des comment dirais-je, entre le passage à l'acte et
vous voulez dire les consommateurs ne sont pas forcément des agresseurs potentiels, c'est ça?
Ouais, on imagine toujours le prédateur qui guette au coin, et on en parlait tout à l'heure. Il faut rappeler aussi que la plupart du temps, ces cas de pédophilie se passent en famille, ce qui est encore plus dégueulasse entre guillemets, quoi.
Alors l'inceste n'a rien à voir, hein. Lorsque on parle d'inceste, c'est un autre trouble qui n'a rien à voir avec une orientation sexuelle figée.
Mais si on parle d'inceste, ça veut dire que les deux sont consentants, quelque part. À partir du moment où un des deux ne l'est pas, on appelle ça un viol.
Oui, un viol, mais on parle pas de, on n'appelle pas ça pédophilie, forcément. Le viol, oui. Mais la pédophilie, c'est autre chose. Ça désigne une orientation, et un pédophile peut être abstinent et un hétérosexuel peut être violeur d'enfants.
Oui. C'est compliqué tout ça. Ça mettrait une deuxième émission.
Alors comment l'heure tourne, malheureusement, on est content de vous avoir reçu. Malheureusement, il est déjà 21h55.
Si on est mercredi et dimanche, on serait
bientôt 17h, voilà. 16h55. Donc moi, je rappelle quand même que tous les liens de l'association L'Ange Bleu seront podcastibles, et on pourra les découvrir sur le site de notre émission, sur notre blog. Et comment pourrait-on dire pour conclure cette émission, est-ce que vous notez quand même que votre combat n'est pas vain, qu'on commence à voir un petit peu à changer le regard sur...
Tout à fait. Contrairement à l'époque où j'ai créé l'association, où certains professionnels me tournaient le dos parce qu'ils estimaient que c'était pas mon terrain, que j'empiétais sur le leur. Aujourd'hui, des experts psychiatres, des psychologues, des étudiants. D'ailleurs, il y a beaucoup d'universités qui acceptent la convention de stage et les formations. Donc, j'ai souvent des propositions de mémoire. Donc, j'ai chaque année 15 à 20 étudiantes qui apprennent ma méthode.
D'accord. Voilà. Et qui vont en stage chez vous.
Tout à fait. Et donc, le regard a complètement changé. Et la vision des gens a changé, puisque j'ai beaucoup de gens qui expriment des marques de soutien en m'écrivant après chaque émission de télévision ou article.
C'est quels étudiants? Sociologie, en droit?
En droit et psychologie aussi, et même journalisme. Aujourd'hui, j'ai eu 3 propositions d'étudiants en journalisme.
D'accord. Eh ben, écoutez, on vous remercie, Latifa. Je vois que Jean-Loup danse, il danse sur son fauteuil.
J'ai l'impression qu'ils s'emmerdent. Ils sont là. Vous n'avez pas été victime de pédophiles, ça sent, là.
Non, mais ils sont pareils pour toutes les émissions, j'ai remarqué. Une fois qu'ils ont mangé leur,
Mais on bosse, on prépare l'article. On va partir à 1h30. Et quoi qu'il y a, c'est pour vous, Jean-Loup.
Il y a 5 ans, j'ai dit à Tom, je sais pas ce qu'il m'a pris, qu'il avait la peau douce.
Ouais. Est-ce que ça compte si c'est des vieux tontons, avec qui on fait des émissions de radio?
Oui, parce que pour nous, on est toujours des petits.
Latifa, on peut plus quand même appeler comment Tom Egrovitch, on peut plus dire vraiment que ce soit des enfants.
Non, pas
on
du
peut,
tout.
On peut donc abuser d'eux une fois qu'ils sont sous.
Sans doute.
La caution de l'Ange Bleu.
En revanche, il y a quand même une grande catégorie de personnes qui sont attirées par la tranche d'âge 15 ans, 20 ans. C'est ce qu'on appelle effet beau-fil. Hein? Et c'est ce qui le ressort du profil de quelqu'un qui a fait un peu la une des journaux.
La majorité sexuelle, c'est quoi? C'est 16 ans ou
14 ans? Alors là, c'est une loi, mais à l'application, c'est autre chose.
D'accord. Bah, écoutez, on vous remercie d'être intervenu. Merci. Vaste sujet, merci. On a pu faire une deuxième émission.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des actualités, etc. On peut aussi vous recontacter, vous réinterviewer par
téléphone. Avec plaisir.
Allez, on va laisser la place à l'émission suivante. C'est parti, un petit disque, et on vous dit à la semaine prochaine.
Scream, it's an ultra scream. It shatters forever and possesses forever.